rencontre littéraire, Václav Richter.
Pendant longtemps, l'œuvre du marquis de Sade, jugée intolérable, a été interdite au public. Celui qui, pour les uns, était le divin marquis, était pour les autres un personnage répugnant, dont la vie n'était qu'une suite d'horribles aberrations et dont l'œuvre semait la perversion et le crime. La poétesse et essayiste Annie Lebrun, qui avait consacré à Sade plusieurs essais, est venue à Prague pour nous parler de cet homme qui nous défait, comme elle dit, de tout ce qui sert à nous tromper sur ce que nous sommes. Philosophe libertin, hédoniste et athée, Donatien Alphonse François de Sade a été l'enfant d'une vieille famille française. Né en 1740, il a vécu sous l'Ancien Régime, sous la Terreur et sous l'Empire, a passé au total 30 ans en prison et a fini sa vie dans un asile de fous. Malgré l'incessante série de scandales qu'était sa vie, il aurait été probablement oublié s'il n'avait pas su confier à la plume ses pensées et son imagination déchaînée. Aujourd'hui, ces écrits scandaleux sont disponibles en librairie, dans les bibliothèques publiques et sur Internet. Nous pouvons lire Sade en version intégrale et non censurée. Notre époque, qui a levé de nombreux interdits, nous permet d'entrer dans l'univers sulfureux de cet homme qui a déboulonné toutes les idoles et transgressé tous les tabous. Nous ne craignons plus d'être souillés par cette lecture, mais serons-nous encore les mêmes après avoir lu les 120 journées de Sodome ? Que peut-on trouver dans ce roman au-delà des descriptions détaillées des orgies sadiques? Y a-t-il un message plus profond? Faut-il lire aujourd'hui le marquis de Sade et pourquoi? La réponse d'Annie Lebrun est nette.
Je pense qu'il faut lire Sade parce que c'est peut-être le seul véritable athée et qui ne se contente pas de mettre en question l'idée de Dieu, mais qui traque la religiosité sous toutes ses formes. Et qui montre que il y a dans l'esprit humain une composante qui fait qu'on est prêt à toujours être le dévot de quelque chose. Et cette sorte d'insoumission et profonde, d'insoumission existentielle de Sade, c'est, je crois, ce qui me paraît le plus essentiel aujourd'hui, dans la mesure où on trouve de moins en moins des personnages souverains, mais au contraire des personnages de plus en plus soumis, prêts à accepter tout ce que cette société-là leur propose.
Souvent, on confond Sade avec le sadisme. Quelle est la différence ?
Au départ, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que c'est bien parce que lui a existé qu'on a mis un nom sur cette perversion sexuelle, mais qui est que ce qu'on appelait cette perversion sexuelle, et que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que au-delà de justement d'un comportement sexuel qui le différenciait des autres hommes, Sade a vu à quel point il y a dans le désir humain une composante a mis en lumière quelle est la composante criminelle du désir humain. Et ça, je pense que c'est un apport essentiel dans la mesure où tout est fait pour qu'on oublie ça. Alors qu'on voit bien que dès que le monde commence un peu, que les bases sociales commencent à être ébranlées, eh bien tout de suite, cette sorte de criminalité revient.
été l'évolution du rapport de la société européenne vis-à-vis de Sade?
Bien, pendant très longtemps, même jusque dans les années 60, cette société a rejeté Sade. Les gens les plus libres ont été, je crois, les poètes qui ont le mieux vu l'importance de Sade, comme Apollinaire, qui a été un des premiers qui a mis en avant justement la nécessité de lire Sade. Et au fur et à mesure, les surréalistes aussi, qui ont trouvé dans Sade le fondement de leur révolte et de leur insoumission, ont beaucoup aidé à la réhabilitation de Sade. Mais ça n'est que dans les années 60 que Sade n'a plus été interdit dans les librairies et dans les maisons d'édition. Mais il faut dire aussi souligner le courage de Jean-Jacques Pauvert, qui a été le premier éditeur qui, dès 48, a publié sous son nom ce que personne n'avait fait, l'œuvre de Sade.
Sade a eu une grande influence sur Pier Paolo Pasolini, qui a fait un film d'après 120 journées de Sodome. Est-ce que c'était du Sade, du véritable Sade, ou c'était plutôt du Pasolini, ce qu'on voyait dans le film?
Moi, je pense que c'est du Pasolini, et que c'est d'autant plus regrettable qu'il y ait cette collusion avec Sade, parce que il y a un contresens qui est qu'il a fixé son interprétation des 120 journées à l'époque fasciste. Or, si justement il y a quelqu'un qui s'oppose à l'idéologie sous toutes ses formes, c'est bien Sade. Et même cette sorte de criminalité qu'il met en avant, et pour lui ne recoupe jamais la loi. Et ni la loi, ni l'ordre, ni quelque ordre que ce soit. Et donc là, je pense qu'il y avait de la part de Pasolini un grand contresens. Et c'est beaucoup plus du Pasolini que du Sade, voilà, c'est ça.
Vous avez dit qu'aujourd'hui, on se montre beaucoup plus ouvert à Sade, mais qu'il y a peut-être un malentendu.
Oui, je pense, surtout que de plus en plus, il y a des commentaires sur ça, des interprétations, et qui sont très multiples, chacun pense, alors que ça évite de lire ça, et que ça évite aussi de faire cet effort qui est quand même assez grand, de se trouver confronté à l'abîme sur lequel ouvre la pensée de Sade, dans la mesure où c'est la pensée athée la plus conséquente. Donc pour chez lui, il n'y a rien qui peut venir faire écran au vide de la pensée athée.
C'était la poétesse essayiste Annie Lebrun qui nous a parlé du marquis de Sade. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Dasha Tilova, réalisation technique, et à David Rada, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue.